loto, c'est un jeu de hasard par excellence, et en même temps, quand on commence à demander aux joueurs pourquoi ils ont choisi tel ou tel carton, ils vous disent « Ah, j'ai choisi ce carton-là parce qu'il y a tel numéro et ce numéro-là, il sort plus que les autres. »
Oui, là, on se trouve dans l'ambiguïté du jeu de hasard. C'est-à-dire, au départ, le jeu de hasard, il met en jeu l'aléa, justement, c'est-à-dire on attend le résultat d'un tirage hasardeux pour gagner quelque chose, mais en fait, quand on regarde comment... entouré, apprivoisé ce hasard, on s'aperçoit que dès l'entrée dans la salle de jeu, les gens choisissent le plus souvent un carton en fonction d'un numéro qui leur convient. Alors soit c'est assez marrant comme vous venez de le dire, parce qu'il est censé sortir plus souvent, soit parce que ils vous disent j'ai toujours pris tel numéro, ça m'a toujours réussi, ou je tiens à ce numéro, etc. Et il faut savoir que ce traitement du hasard est traditionnel et général, et en fait on s'aperçoit quand on le creuse un peu que pour les joueurs, en fait, il n'y a pas véritablement de hasard. Et qu'on est là pour attendre un résultat qui est inscrit quelque part, et on pourrait dire que dans le cadre du jeu, le hasard est en fait régi par un destin, mais le problème c'est que ce destin, on ne le connaît pas. Il est inscrit quelque part, on ne le connaît pas, et il va falloir, d'une certaine manière, deviner quels sont les chiffres qui vont sortir, et pour deviner ces chiffres, on a un certain nombre de pratiques, alors qu'on peut appeler magiques, superstitieuses, si l'on veut, mais qui sont liées à des croyances très particulières. Il peut y avoir des pratiques personnelles, par exemple venir avec ses propres pièces de monnaie pour marquer les numéros et ne pas se servir des graines de maïs qui sont sur la table, parce qu'on pense qu'on a plus de chances d'apprivoiser le hasard d'une certaine manière en utilisant ses propres instruments de marquage. Mais on peut aussi, alors on dit qu'encore aujourd'hui, on frotte les cartons avec de l'ail, qu'on les pose à tel endroit, en particulier sous son cerf avant de jouer pour se les approprier, etc. etc. Ça paraît anodin, mais si l'on se reporte à toutes les pratiques autour du chiffre à la loterie, on s'aperçoit que c'était généralisé et que pour apprivoiser le hasard et donc lire ces chiffres du destin qui existent quelque part, qui vont devoir se dévoiler mais que l'on ne connaît pas, on a un certain nombre de pratiques dites « magiques » entre guillemets, liées à un certain nombre de croyances. Alors là, bien sûr, c'est plutôt l'Italie et ses régions qui est le pays rêvé pour ce genre de choses, parce que la loterie déchaînait les passions, comme on dit, et ces pratiques étaient très répandues. Donc, bien sûr, on en a des relevés et des commentaires, même s'ils ne sont pas très nombreux, ils sont très précis. Par exemple, il y a des animaux qui... dessiner le chiffre qui va sortir à la loterie. Alors on avait coutume, dans certaines régions, d'enfermer telle araignée, qu'on appelait l'araignée blanche, dans une boîte, on l'attachait par une patte, par un fil au sommet de la boîte, il y avait du sable dans la boîte, et avec les autres pattes, l'araignée grattait, et elle était censée dessiner les chiffres qui allait sortir au prochain tirage de la loterie. Alors pourquoi l'araignée? Là, il faut les mettre en rapport avec tous les caractères bénéfiques de cette araignée en particulier dans la maison, qui protège la maison par ses toiles d'araignée, qui est la bienfaitrice du foyer familial, etc. Bon, ça nous entraînerait trop loin, l'araignée n'est pas prise au hasard. Il y avait aussi un petit reptile qui s'appelait la lucertola de due code, c'est-à-dire un petit lézard à deux queues qui était censé donner les numéros du loto. Et on enfermait ce petit lézard dans une boîte aussi, avec ce qu'il dessinait en se déplaçant sur du sable ou sur du papier. Il était censé dessiner les numéros qui allaient sortir au prochain tirage du loto. Alors pourquoi cet animal aussi, si on regarde quelles sont, là je dirais un ethnologue, les caractéristiques de cet animal, on s'aperçoit que dans les traditions populaires, il a une fonction particulière. Bon, en dehors du fait qu'il était censé ouvrir les yeux, donner la voyance, etc., il avait aussi la particularité d'avoir sous le cou une petite bulle, et on disait que c'était une goutte d'eau qu'il allait amener aux âmes du purgatoire pour étancher leur soif. Alors ça paraît très joli, très poétique et aussi très anodin, mais il faut savoir que dans la loterie, les personnages les plus importants auprès desquels on devait s'informer des numéros du loto, c'était les morts et les revenants. Et on peut peut-être dire rapidement pourquoi. Les vivants sont confrontés à l'énigme du destin qui touche chacun d'entre nous. Et entre les vivants et le destin, il y a ces autres personnages qui sont les vivants qui viennent de franchir un seuil, qui sont les morts récents, les défunts qui ne sont pas encore des ancêtres, c'est-à-dire qui ne se sont pas encore éloignés dans l'au-delà, qui sont proches de nous, auprès de qui nous intercédons, mais qui ne peuvent pas nous parler directement, puisque bien entendu, ils sont morts. Et donc, tout le jeu de la loterie, si l'on peut dire, va consister à interroger ces défunts proches sur le destin qu'ils sont censés connaître, puisqu'ils sont entre les deux. Et donc, il y a plusieurs moyens d'interroger les défunts, c'est soit de les prier, soit d'attendre qu'ils nous apparaissent en songe pour nous donner le numéro du loto. Et dans la tradition italienne en particulier, il y a cette présence du songe et du message donné en songe par un défunt qui va vous apporter la fortune, qui est très importante dans la détermination du choix d'un numéro du loto. Par exemple, si quelqu'un a l'impression que sa mère défunte lui est apparue une nuit en lui donnant les bons numéros qui vont lui apporter la fortune, bon, elle ne sait pas quel jour, à quel tirage la fortune va lui parvenir, mais toute sa vie, elle jouera les numéros du loto que lui a donné sa propre mère. Et d'autres intercessions sont possibles.
Et c'est là où le fait de gagner ou de perdre n'est pas anodin.
Non, gagner ou perdre, c'est pas anodin, parce que bon, gagner d'abord sur le plan simplement financier, ça peut être important. Et puis aussi, gagner, même si c'est pas grand-chose, c'est avoir été marqué de manière bénéfique par le destin. Alors les gens qui organisaient les loteries s'étaient aperçus de ça, et que le gain de ce type de fortune avait un sens particulier, qui était de s'établir, et que le sens particulier que ça pouvait prendre, c'était une nouvelle génération s'établit. Et à Barcelone, par exemple, pour y revenir une dernière fois, les lots de la loterie locale n'étaient plus des lots en argent, mais par exemple des petites maisons pour un couple. Et donc, toute la famille jouait au loto pour que le nouveau couple puisse s'établir. Alors bien sûr, on retrouve toute la chaîne des croyances que je viens de citer là. C'est-à-dire, on a mettons les parents des futurs jeunes mariés jouer au loto. En jouant au loto, alors faut dire qu'à l'époque, on inscrivait un nom. Hein, on n'achetait pas un billet comme ça. On inscrivait un nom sur un registre et on retrouvait le nom que l'on avait inscrit sur son billet et sur le registre. Les gens, au lieu de jouer leur propre nom, jouer le nom d'un mort récent de leur famille. Par exemple, le grand-père vient de mourir, on va jouer au loto pour que les enfants s'établissent, on va jouer sous le nom du grand-père qui vient de mourir, et si l'on gagne, on va payer la maison aux jeunes mariés qui vont pouvoir s'installer, et on dira que c'est le grand-père qui a fourni l'occasion de s'établir, donc une certaine fortune, même modeste, s'est transmise de génération en génération, le destin de la famille s'est accompli par l'intermédiaire du mort qui vient d'aider la nouvelle famille de s'établir à travers le jeu des parents qui ont misé à la loterie. Là, on voit la chaîne du destin qui fonctionne à plein. Et ces maisons, dans la géographie de Barcelone, étaient appelées les maisons de 8 sous, parce qu'on savait que ces maisons-là avaient été gagnées au loto où l'on avait misé 8 sous.